Merci d'écouter Europe 1, il est 19h.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vit-on un tournant décisif dans la guerre en Ukraine au dernier jour des référendums russes dans l'est du pays? Moscou s'apprête à déclarer l'annexion de 4 territoires. Comme pour dire maintenant, c'est chez nous, gare à vous si vous attaquez. Nous en parlons dans un quart d'heure avec Louis Osalter, journaliste à Marianne, l'essayiste Amine El-Khatmi et William Tay, président du cercle de réflexion Le Millénaire. Mais avant le commentaire, les faits, l'actualité, le journal d'Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Avec cette question liée au conflit en Ukraine, que se passe-t-il en mer Baltique? Comme un air de film d'espionnage avec ses fuites suspectes des gazoducs Nord Stream, il pourrait bien s'agir d'un sabotage.
Oui, on va faire le point sur les pistes envisagées dans un instant. On parlera aussi de la fin des référendums d'annexion dans les 4 régions sous contrôle russe. Dans ce journal, l'ambiance d'insécurité à Nantes, pourtant démentie par les chiffres du préfet. Une enquête ouverte pour détournement de fonds publics dans le cadre de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Et puis un gagnant du loto qui se signale in extremis. Heureusement, il remporte 4,5 millions d'euros.
Oh le chanceux. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël.
La tendance météo.
Alors mitigée demain avec de nombreuses averses sur le pays, en particulier entre la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne. Un temps plus sec et parfois ensoleillé au nord de la Seine, près des rivages méditerranéens, et du vent en bord de mer. On fait un point complet à la fin du journal.
A tout à l'heure Marlène. D'impressionnants bouillonnements en mer Baltique, les deux gazoducs Nord Stream touchés par d'étranges fuites.
Étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Des bouillonnements allant jusqu'à 1 km de diamètre ont été repérés par l'armée danoise, qui publie d'ailleurs les images des fuites sur ces gazoducs qui relient la Russie à l'Allemagne. L'Ukraine dénonce une attaque terroriste de Moscou, alors que la Russie se dit extrêmement préoccupée. En tout cas, Baptiste Morin, la piste d'un sabotage semble ce soir la plus probable.
Oui, l'Institut sismique suédois annonce avoir enregistré 2 explosions sous-marines, très probablement dues à des détonations à proximité des 2 gazoducs et avant les fuites. Des fuites détectées en moins de 24 heures dans le même périmètre de la Baltique, au sud-est de l'île danoise de Bornholm. Les images de bouillonnement provoquées par le méthane ont été enregistrées et diffusées par l'armée danoise. Et l'hypothèse d'un acte de sabotage mené en mission commandée à 40 mètres de profondeur prend de l'épaisseur d'heure en heure. Tous les regards se tournent vers Moscou. Mais pour le spécialiste de l'énergie Thierry Bross, il faut être prudent. Saboter ces gazoducs n'est pas forcément dans l'intérêt de Vladimir Poutine.
La résultante, c'est que ces tuyaux-là ne seront plus utilisés pour amener du gaz russe en Europe. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours seulement, le président Poutine nous demandait d'ouvrir Nord Stream 2.
Reste que ce qui intrigue un peu plus encore, c'est le calendrier. Ces fuites interviennent alors qu'un nouveau gazoduc reliant la Norvège et la Pologne est inauguré. Un nouveau gazoduc qui montre que l'Europe de l'Est peut elle aussi se passer du gaz russe.
Baptiste Morin.
Et dans ce contexte, les référendums organisés dans 4 régions d'Ukraine sous contrôle russe se sont achevés aujourd'hui.
Et sans surprise, les premiers résultats partiels donnent une victoire écrasante du oui au rattachement à la Russie. Des scores approchant les 100%, Johann Tritz.
Oui, d'abord en Russie où la population était aussi amenée à voter à ce sujet. Un quart des bulletins ont été dépouillés. La commission électorale a affirmé que le oui emportait entre 97 et 98% des suffrages. Le résultat devrait être similaire dans les territoires contrôlés par Moscou en Ukraine. À Kherson, le gouverneur installé par le Kremlin, Vladimir Saldo, annonce déjà la victoire du oui.
À cette heure, il est clair que la grande majorité des votants ont soutenu la question de la sécession de la région de Kherson en Ukraine et l'adhésion à la Russie.
Il faut dire que les conditions de vote sont particulières. Le bulletin n'est pas secret. Dans chaque bureau, un soldat est présent pour surveiller le déroulé. Un référendum évidemment décrié par l'Ukraine et Dmytro Kuleba, le chef de la diplomatie.
L'essentiel est que ces actions, cette décision de Poutine et ces votes d'annexion ne changeront rien à notre politique, à notre diplomatie et à nos actions sur le terrain militaire.
Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères en visite en Ukraine, se trouvait à ses côtés. Elle évoque de nouvelles sanctions contre la Russie en cas d'application de ces référendums. À l'instant, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken affirme que les États-Unis et leurs alliés ne reconnaîtront jamais ce vote. Pourtant, une fois le résultat devenu officiel ce soir ou demain, le Parlement russe votera un traité formalisant l'intégration des quatre régions au territoire russe et l'annexion pourrait être effective mercredi ou jeudi, selon les agences russes.
Et Johan, l'Union européenne parle de référendums illégaux et compte sanctionner toutes les personnes qui ont participé à leur organisation.
En pleine crise énergétique liée en grande partie à la guerre en Ukraine, le gouvernement français compte passer à la vitesse supérieure sur le nucléaire.
Oui, après le plan sur les énergies renouvelables, le projet de loi pour lancer rapidement de nouveaux réacteurs a été dévoilé. Margot Faudéré, aujourd'hui, il faut au moins 4 ans pour commencer la construction d'un EPR.
Oui, accélérer toutes les étapes du processus. D'abord, en ce qui concerne les recours, le Conseil d'État serait l'unique instance saisie. Il pourrait aussi déclarer le projet raison impérative d'intérêt public majeur, ce qui permettrait de déroger au Code de l'environnement. Autre mesure du projet de loi, pouvoir commencer les fondations avant la fin de l'enquête publique. Et toujours pour aller plus vite, pouvoir installer ces nouveaux réacteurs sur des sites déjà existants, comme l'expliquait ce matin la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, sur l'antenne d'Europe 1.
Ces sites, on les connaît déjà d'un point de vue environnemental, d'un point de vue d'archéologie préventive. Et donc, on peut se dire qu'on peut aller plus vite sur les phases d'instruction administrative parce qu'on ne va pas mettre en danger la nature sur des sites qui accueillent déjà des réacteurs nucléaires.
Le gouvernement espère la pose de la première pierre avant la fin du mandat du président, avant mai 2027 donc, alors qu'EDF tablait sur au minimum 6 mois de plus.
Margot Faudéré.
Chez Total Energy, les salariés commencent une grève d'au moins 3 jours aujourd'hui.
Oui, ils demandent avant tout de meilleurs salaires et menacent de bloquer l'approvisionnement des stations-service en carburant. Alors qu'on parle des super-profits, eux aussi veulent leur part du gâteau. Éric Cellini, coordinateur CGT chez Total.
Nous, on réclame une augmentation de salaire de 10% compte tenu de la forte inflation. On n'est pas non plus dans une entreprise lambda. Hein, on est dans une entreprise qui est riche 1 milliard, qui fait depuis des années entre 8 et 12 milliards de bénéfices tous les ans. Et là, cette année, ça explose. Ça motive d'autant plus les salariés à réclamer effectivement des augmentations de salaire pour pouvoir faire face à leurs besoins quotidiens.
Un propos recueilli par Nina Droff. Quant au PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, il annonce 1 milliard d'euros d'investissement pour améliorer la performance énergétique de ses entreprises. Il propose aussi des bonus tarifaires aux clients qui diminueront leur consommation d'électricité cet hiver.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, la suite du journal. Nous irons à Nantes où les habitants sont gagnés par un sentiment d'insécurité après plusieurs faits divers. A tout de suite.
Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé.
19h09 sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zélani. Nantes est-elle devenue une ville dangereuse ?
Une femme victime d'un viol en réunion le week-end dernier, un policier gravement blessé après un refus d'obtempérer et un appel de l'association Sécurité Nocturne Nantes a manifesté samedi. Même si le préfet relativise, le sentiment d'insécurité est bien présent chez les habitants, Charles Guyard.
Oui, à Nantes, désormais, sortir le soir ne fait plus vraiment partie des projets, ou du moins on le fait avec précaution.
J'essaie d'être accompagnée toujours soit par un homme, et si j'ai pas d'homme avec moi, au moins par des copines, enfin pas toute seule quoi.
Même que entre filles, personnellement, je dis non. J'ai même refusé de sortir, j'avais payé ma place au warehouse et finalement j'ai annulé parce que je savais que j'allais me retrouver tout seul après pour sortir soir et dans les transports je peux pas.
Il y a beaucoup d'insécurité, moi je viens de Rennes et je me sens moins à l'aise à Nantes, en même temps c'est une plus grosse ville mais quand même.
Nantes en effet a changé de visage en 2 décennies, une démographie qui a doublé et cela peut expliquer une hausse de l'insécurité ressentie mais aussi réelle. Les faits de violence sur la voie publique sont repartis à la hausse depuis la fin de la crise sanitaire mais sans retrouver les niveaux d'avant, clarifie le préfet de la Loire-Atlantique Didier Martin.
Si on compare 2022 avec les années d'avant Covid, on ne retrouve pas encore, et tant mieux, le même niveau de violence sur la voie publique. Il y a clairement un effet de rattrapage par rapport aux très fortes baisses qui avaient été constatées en 2020 et 2021. Et donc je comprends que ça marque nos concitoyens. Il faut dire aussi que Nantes a changé de statut ces 20 dernières années, qui a un niveau de délinquance en rapport avec son nouveau statut de grande métropole européenne.
Et pour répondre à cette nouvelle configuration, 70 fonctionnaires de police ont été recrutés ici depuis janvier 2021.
Charles Guyard, vous êtes à Nantes pour Europe 1. Et ce soir sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce un renforcement des effectifs policiers dès ce soir et notamment le déploiement de CRS spécialisés dans les violences urbaines.
L'insécurité habité à Nantes. Nous en parlerons dans la deuxième partie d'Europe Soir avec nos invités. Valérie Pécresse dans le collimateur du parquet de Paris pour le financement de sa campagne présidentielle.
Oui, une enquête préliminaire vient d'être ouverte, notamment pour détournement de fonds publics. Qu'est-ce qui justifie cette enquête, Alexandre Chauveau ?
Eh bien, le parquet de Paris s'interroge après le signalement effectué par Julien Bayou au procureur de la République le 19 avril dernier. Signalement de 3 pages que nous nous sommes procurés et dans lequel celui qui n'était alors que conseiller régional d'Europe Écologie Les Verts listait des faits susceptibles, selon lui, de relever du détournement de fonds publics. Julien Bayou pointait notamment du doigt, je cite, un mélange des genres entre la présidente de région et la candidate à la présidentielle, estimant en fait qu'une partie du cabinet de la région Île-de-France aurait pu, sans le déclarer, se mettre au service de la candidate à la présidentielle. Des soupçons formellement contestés par l'équipe de Valérie Pécresse. Je défie quiconque d'avoir été aussi scrupuleux, déclare même un pilier de sa campagne. Valérie Pécresse affirme être parfaitement sereine et se mettre à disposition de la justice. La présidente de la région Île-de-France va par ailleurs porter plainte contre X pour dénonciation calomnieuse.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
C'est un débat sensible que souhaite trancher le président, celui sur la fin de vie. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui les représentants des évêques à l'Élysée.
Oui, sachant qu'il y a 2 semaines, le Comité consultatif national d'éthique jugeait possible une aide active à mourir, mais à certaines conditions strictes. Les évêques ont donc fait part de leurs réserves au chef de l'État. Le père Hugues de Voilemont est porte-parole de la Conférence des évêques de France.
Nous avons pu dire l'inquiétude de l'Église de France. Vous savez, il y a une parole très importante dans la Bible, c'est « choisis la vie, non pas la mort ». Et ça, cela se vérifie au moment ultime de notre vie, qui est un moment évidemment très délicat, très sensible. C'est un sujet qu'on ne peut pas aborder n'importe comment. Et nous avons pu du coup le redire au président. Nous avons également souhaité lui dire l'importance des soins palliatifs et le développement, le déploiement aussi des soins palliatifs insuffisants en France. Et enfin aussi insister sur la qualité d'un débat qui soit ouvert, d'un débat qui prenne en compte les paroles et l'expérience d'acteurs très différents.
Le porte-parole de la Conférence des évêques de France. De nouvelles accusations pèsent sur l'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier. Déjà mis en examen pour 24 empoisonnements qu'il a toujours niés, il est maintenant soupçonné de 8 nouveaux cas d'empoisonnement de patients, dont 4 mortels.
Allez, la belle histoire du soir maintenant. Son titre, à quelques heures près, son gain lui passait sous le nez.
Et quel gain, 4,5 millions d'euros. Cet homme d'une 60aine d'années avait acheté son ticket d'Euromillions à Puy-Saint-Vincent dans les Hautes-Alpes, mais il l'avait oublié dans son portefeuille. Et ce ticket, il ne l'a vérifié qu'à la fin de ses vacances. Coup de chance, c'était le dernier jour de validité. La suite, c'est Isabelle Césari, responsable des relations grand gagnant à la Française des Jeux, qui nous la raconte.
Ce joueur décide d'aller s'acheter un kebab et en attendant que son kebab soit confectionné, il se souvient qu'il a un reçu de jeu dans son portefeuille. Il se dit, bah tiens, je vais aller juste à côté dans le tabac pour vérifier ce reçu. Et il apprend qu'il a remporté 4,5 millions d'euros. Il a annoncé à son épouse ce gain d'une façon assez amusante. En fait, il n'a mangé que quelques bouchées de son kebab, donc il l'a ramené avec lui chez lui. Il l'a mis ensuite au frigo et son épouse est rentrée à la maison, a vu le kebab dans le frigo, ce qui n'est pas forcément un mets qu'il a l'habitude de consommer. Et donc, elle lui dit, mais bon, qu'est-ce que c'est que ce sandwich ? Et donc là, il lui dit, écoute, tu ne vas pas me croire, mais il s'agit d'un kebab en or. Et là, ils étaient assez sidérés tous les deux, mais avec beaucoup de recul sur la situation, beaucoup de joie aussi, évidemment.
L'histoire du kebab en or, des propos recueillis par Chloé Lagadou. Et ce gagnant veut maintenant aider ses proches, s'acheter une maison ou encore voyager en Amérique du Sud. On va continuer à parler d'argent avec vous, Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir.
Bonsoir.
La Bourse de Paris baisse pour la 4e séance consécutive.
Oui, c'est pas vraiment une séance en or. 4e séance de baisse, effectivement, la tentative de rebond de la matinée n'a pas tenu. Moins 0,27% sur le CAC 40, 5 753 points. Les risques de récession continuent de plomber l'ambiance. Certains groupes accusent le coup encore, hein, comme Kering, moins 3%, Veolia, moins 3% aussi, Airbus, 7,2% sous les 90 euros. Sur les devises, l'euro est toujours aussi faible, 0,95 face au dollar, au plus bas depuis une 20aine d'années. Ailleurs, c'est à peu près la même chose. Même panorama, la bourse de Francfort 7,07%, Londres moins 0,5%, Milan moins 1,1% et le CAC 40 donc en baisse de 0,27%, 5 753 points.
Merci Didier Hamot, à demain.
Merci à vous également Hélène Zellani, qu'on le retrouve demain pour un nouveau journal sur Europe 1, la météo. Et on retrouve Marlène Duret. Marlène, de nouvelles pluies sont arrivées par le nord-ouest.
Oui Raphaël, elles vont d'ailleurs circuler sur une petite moitié nord du pays cette nuit. Et puis on va les retrouver demain matin depuis les Côtes d'Armor et depuis le Mont-Saint-Michel jusqu'à l'Alsace et aux Alpes du Nord en passant par le nord des Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis ce corps pluvieux devrait se limiter l'après-midi au sud de l'Alsace, à la Franche-Comté, au sud du Berry, à l'Auvergne, au Limousin, c'est précis, hein, au nord de la région Rhône-Alpes. Ailleurs, bon, c'est un régime d'averse, hein, puis beaucoup de vent aussi quand même.
Alors pas de soleil du tout, hein.
On peut en avoir. C'est vrai que les éclaircies sont courtes, mais Météo France prévoit de belles éclaircies le matin, de la Normandie aux frontières du Nord en passant par une petite partie de l'Île-de-France. Et puis l'après-midi, elles vont gagner un petit peu vers la Lorraine, le Bas-Rhin. Le ciel va se dégager aussi autour de la Méditerranée l'après-midi, sauf sur la partie ouest de la Corse. Hein. Des petites averses quand même qui peuvent prendre un caractère orageux. Et puis le vent qui va souffler toujours fort dans la région de Bastia.
Et les températures maximales?
14 à 20 degrés en général. Petit contraste dans le nord, il faut le dire. Il fera frais le matin des Hauts-de-France vers le Grand Est. 6 à 8 degrés, c'est-à-dire qu'à Lille, par exemple, il fera 6 le matin, mais 15 l'après-midi. Les 20 degrés, on va les chercher du côté du sud-ouest. Et puis, c'est en Méditerranée qu'il fera le plus chaud. 23 à 28 degrés, les 28 du côté de Nice.
C'est bien noté. Merci Marlène Duret. Prochain point météo à 23h ce soir sur Europe 1. Dans quelques instants, le commentaire, l'analyse de l'actualité. Nous sommes ce soir avec Louis Osalter, journaliste à Marianne, l'essayiste Amine El Khatmi et William T, président du cercle de réflexion Le Millénaire. A tout de suite sur Europe 1.
19h, 20h, Raphaël Delvolvé.